Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube Radio.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit David Carpentier, l'auteur d'un essai riche et au titre évocateur, La métropole contre la nation. Il décortique le fossé grandissant entre Montréal et le reste du Québec et voit dans l'interculturalisme clairement défini, il ne l'est pas actuellement, une façon de combler au moins en partie ce fameux fossé. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, la rentrée de Québec solidaire, ce parti sonné, ce parti dont on n'entend pas parler. Je dis sonné parce que c'était la chronique de Mario Dumont il y a quelques semaines.
Oui, là, effectivement,
disait,
c'est vrai.
Je vous ai remarqué que
on les voit pas.
Ils sont fantomatiques.
Exact. Ceci étant, moi, je suis pas... J'associe pas leur faible présence médiatique, je dirais, des dernières semaines à une déprime post-électorale non plus. Je pense que c'est peut-être un peu court parce que c'est normal, après la campagne électorale, de préparer, avec quelques nouveaux, les sujets à aborder lors de la rentrée parlementaire. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait d'attendre et de se préparer, et peut-être ne serait-ce que pour être meilleur lorsque ça va vraiment compter.
C'est peut-être nous qui sommes impatients.
C'est
nous,
ça.
Les médias, il faut toujours nourrir notre bête.
Exact.
Et notre bête a faim.
Je pense que c'est un peu ça. Il y a eu une période, on dirait, où ça a été plus tranquille. Les libéraux se sont occupés, je dirais, de nourrir l'attention médiatique avec leur querelle. Mais ceci étant, donc c'est ça. Moi, je pense pas que...
En s'auto-détruisant.
Exactement. Donc, je pense pas que parce que Québec solidaire a été moins présent, ça veut nécessairement dire qu'ils étaient en déprime. Mais ceci étant, aujourd'hui, c'était leur rentrée, donc un peu plus... tard, entre guillemets, que les autres partis qui ont tenu leur caucus de rentrée la semaine dernière, quoique celui de la CAQ, on n'a pas parlé vraiment parce que, écoute, il a duré le temps de le dire, le temps d'une chanson, comme quand
on ils ont réglé ça en un après-midi.
Oui. Alors, les solidaires, eux, c'était leur rentrée, caucus au Parlement, tenu donc à Québec. Et, il y a eu quelques commentaires de formulés à l'entrée, mais je vais d'abord parler de la conférence de presse qu'ils ont tenue. Le message qu'ils avaient à passer, c'est que pour eux, la priorité, c'est vraiment la lutte contre l'inflation. Et d'après
eux... autres aussi?
Oui. Et d'après eux, la CAQ devrait en faire plus. Le gouvernement, donc, de François Legault devrait en faire plus. Il y a eu quand même... ça c'est pas encore fait. Là, ça va arriver dans les comptes de banque des Québécois dans les prochaines semaines. Mais le 400 à 600 $ d'aide directe pour lutter contre la hausse des prix. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement Legault va déposer, dans le cadre de cette très, très courte session de 2 semaines de travaux parlementaires, un projet de loi pour limiter la hausse des tarifs à 3 %.
Le projet de loi numéro 1?
Oui.
Et très symbolique.
Oui, quand on était en campagne électorale, on disait quel est le premier geste que vous allez poser? Puis c'était, on va
plafonner les tarifs.
Oui. Alors, c'est sûr que La CAQ, en ce sens, est fidèle à ce qu'ils ont toujours prôné. Donc, même à l'élection de 2018, ils disaient « Nous, on ne veut pas que les tarifs augmentent de plus que l'inflation. » Là, le problème, c'est que l'inflation, cette année, c'est beaucoup plus que les années dernières. Et même, par exemple, pour les tarifs d'Hydro-Québec, ça posait problème. Parce
Mais
que
oui.
si on ne faisait rien, ben, au printemps prochain, il y aurait eu une augmentation qui aurait pu être de 5 % par exemple, ou 6 % Et la dernière fois que c'est arrivé, une augmentation aussi élevée, là, il y a eu 5,3 % de hausse de tarifs d'hydro en 2006.
Ah oui?
Et ça faisait justement suite à quelques années où il y avait eu des gels, d'ailleurs. Alors, bref...
Et Jean Charest s'était fait ramasser à cause de ça, je me souviens, dans une usine...
Oui.
Et, pendant la campagne...
Les bras croisés, oui. Oui, exactement.
Et mon compte d'hydro augmente tout le temps, moi.
C'était pas dans... Beauharnois.
Exactement.
Oui. Mais si mon souvenir est fidèle, effectivement, qu'ils aient arrêté de parler et ça me coûte plus cher à chaque fois que vous dites quelque chose. C'était de toute beauté sous l'œil des caméras. Alors donc, QS, je reviens à eux, c'est que ce qu'ils disent, c'est que limiter la hausse des tarifs à 3 % ce n'est pas assez. Ce qu'ils demandent, c'est un gel. Alors, autant pour, par exemple, Hydro-Québec, que des permis, que pour, par exemple, les chambres dans les CHSLD. Mais ceci étant, Québec solidaire ne proposait pas un gel des tarifs à la campagne électorale, là, donc il y a quelques mois. Là.
Non.
Pourquoi maintenant ils demandent? La question leur a été posée. Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Oui, mais en campagne électorale, c'est différent. Nos propositions, c'était des propositions de gouvernement solidaire, là, comprenant différents éléments là, sur différents sujets.
Okay.
Alors que là, ils disent que ben maintenant, là, on fait cette proposition-là comme parti d'opposition qui demande un geste le plus ciblé dans un secteur particulier.
Désormais, en campagne électorale, alors, il faudrait que les partis déposent un programme d'opposition.
Oui.
Pas juste de gouvernement.
Quasiment, parce qu'effectivement, ça devient... Si c'est pour être différent, effectivement, t'as raison, ça pourrait quasiment être le cas. Mais donc, dans le cas de la campagne électorale, Québec solidaire proposait de suspendre la TVQ sur les biens essentiels, mais eux rentraient là-dedans les vêtements, tous les vêtements.
Oui, je me souviens, oui.
La facture des restaurants...
Oui.
Les vêtements, là, à ce moment-là, des fois, c'est pas toujours... ça aurait pu inclure des vêtements de luxe là, pour des gens qui ont moins besoin.
Puis les restaurants, ça aurait pu être Pierre Fitzgibbon.
Là. Même chose oui, c'est dans ça. Un restaurant aussi.
Ça irait pas de taxes, tu sais.
Bon, ouais. Mais bref, ils ont ajusté, disons, eux-mêmes ce qu'ils proposent maintenant. Et bon, d'après eux, c'est que c'est ça, c'est que le gouvernement, quand il va proposer quand il va déposer, en fait, son projet de loi, bien, ils annoncent comme déjà qu'ils souhaiteraient, eux, présenter des amendements et faire en sorte que ce soit un gel. Moi, je reviens sur le fait que c'est beau de dire on va geler des tarifs, mais comme par exemple dans le cas d'Hydro-Québec, c'est parce qu'inévitablement, ça fait en sorte qu'après, quand tu dégèles, bien là, t'as une hausse de tarifs qui est plus élevée. Donc, est-ce que
ça peut être une débâcle.
Oui, alors là, c'est ça. Alors là, est-ce qu'on se rend vraiment service?
Ouais.
Je suis pas sûr. Moi, personnellement, comme consommateur, là, je dirais que j'aime mieux, dans le fond, avoir une hausse plus prévisible, plus faible, mais plus constante.
Puis plus objective. Oui, parce qu'un gel, on l'a vu aussi dans les universités, les tarifs, les frais de scolarité, ça a pas aidé, au fond. Ça a fini par une crise en 2012, quand on a voulu dégeler, justement, puis avoir des hausses. Donc, c'est bien de prévoir des hausses, peut-être pas des... Peut-être les plafonner, c'est une bonne idée, mais au moins en prévoir.
C'est ça, exactement. Ça permet une plus grande stabilité et prévisibilité et de s'économiser un choc tarifaire pour plus tard. Alors, voilà. Bon, c'est la proposition de Québec solidaire, mais voici, c'est ce que j'en pense.
Et je suis d'accord. Parle-nous d'Harold Lebel, maintenant, qui a été formellement accusé, non seulement formellement accusé, mais reconnu coupable.
Oui, c'est quand même un choc, déjà, le fait qu'il ait été arrêté alors qu'il était député. Écoute, c'est vraiment pas arrivé souvent dans le passé qu'un élu soit arrêté pendant un mandat politique. Ça a provoqué son expulsion du Parti québécois.
On se souvient de Gilles Grégoire.
Exactement. Et,
il y a très longtemps.
Oui, exactement. Dans les années 83.
Ouais.
Et donc, dans le cas d'Harold Lebel, déjà, c'est ça, son arrestation avait été un choc. Il avait été expulsé du Parti québécois. Quand c'est arrivé, c'est sûr que M. Lebel est comme disparu de la place médiatique.
Oui.
Bon. Mais après un certain nombre de mois, il avait recommencé à être actif. Elle avait commencé à poster, par exemple, à publier, pardon, des vidéos qu'il faisait, par exemple, avec des organismes communautaires dans son comté, dans Rimouski, comme député indépendant. Et,
Il est venu au Parlement ici.
Oui, c'est ça. Il a commencé à faire des interventions publiques. Et donc, ça donnait l'impression qu'il se préparait à présenter sa candidature comme député indépendant à l'élection d'octobre dernier. Et finalement, quand il s'est rendu compte que son procès ne serait pas tenu avant, là... Bon, il s'est dit qu'il ne pouvait pas aller, par exemple, solliciter l'appui des citoyens avec un procès pendant contre lui. Alors, il avait décidé de quitter la vie politique. Et là, ben, c'est comme ex-député qu'on apprend aujourd'hui. Donc, il est reconnu coupable d'une accusation d'agression sexuelle qui a été portée contre lui. Là, il s'expose évidemment à une peine de prison. On verra la suite des choses. Mais je reviens aux quelques... exemples, les rares exemples qui sont survenus.
Oui.
Bon, tu parlais de Gilles Grégoire. Écoute, ça, ce qui est très particulier, c'est qu'il avait été reconnu coupable de détournement de mineurs.
Oui.
Et il avait purgé une peine de détention. Mais après avoir purgé sa peine de détention, pendant quelques mois, il était revenu siéger au Parlement en 1984.
Oui.
Ça, je ne peux pas croire que ça arriverait aujourd'hui.
Sûrement pas.
Ça, en tout cas, ça paraît inimaginable. Mais évidemment, ça a été la fin de sa carrière politique comme telle, après qu'il ait joué quand même un rôle très important au Parti québécois parce qu'il a été
dans la fondation.
Des membres fondateurs, exactement. Il avait même suggéré, lui, le nom de Parti québécois qui est resté. Il y a aussi, chez les libéraux, il y a Yves Saint-Denis qui était député d'Argenteuil, député libéral. Lui, ça s'est passé, il était député, il a été expulsé du Parti du caucus du Parti libéral du Québec en 2018 parce qu'il y avait d'abord... une histoire à l'interne. Il avait envoyé des images non sollicitées.
Pornographiques.
C'est ça, à quelqu'un du personnel politique. Il avait été expulsé. Et là, il y avait toutes sortes de rumeurs à son endroit. Il y a eu par la suite une accusation vraiment criminelle qui a été portée contre lui. Et c'était un cas d'agression sexuelle aussi. Et il y a des similitudes, je dirais, avec l'histoire d'Harold Delebel. On parlait d'une soirée arrosée. Il s'était retrouvé dans le lit... d'une dame, puis il s'en était suivi, donc l'accusation, il a été reconnu coupable. Dans son cas, quand il a été reconnu coupable, il n'était plus député.
Oui, Yves Saint-Denis, oui.
Mais il s'était représenté, par exemple,
comme indépendant.
Comme candidat indépendant, mais il avait perdu. Et lorsqu'il a été reconnu coupable, dis-je bien, il a écopé, lui, de 50 heures de travaux communautaires avec une absolution conditionnelle. Mais c'est l'autre cas qui est survenu. Sinon... pas d'autres souvenirs là, de cas comme ça. C'est un choc. Évidemment que c'est... peu importe à qui ça survient ou que ça arrive, c'est quelque chose de très surprenant. Mais dans le monde politique, je dirais encore plus, parce que ce sont des gens qui ont obtenu l'appui de citoyens, qui représentent des gens de leur comté.
Pierre-Rod Lebel, longue carrière. Là,
parce
qu'avant d'être député, tu sais, il a été dans les officines... du Parti québécois pendant très longtemps.
Exact. Et lui...
Depuis
Jacques Parizeau, parce qu'il a été conseiller des premiers ministres du Parti québécois depuis Jacques Parizeau et les autres. Donc, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois. Et là, il a tenté, pendant ce temps-là, je dirais, au fil des années, il a tenté de se faire élire à quelques reprises et sans succès.
Il a perdu contre Mario Dumont à un moment donné. Il était quasiment sûr d'être élu. Ça n'a pas marché.
Et c'est en 2014, donc, il a été élu pour la première fois dans Rimouski. Et je te dirais qu'il a marqué les esprits au Parlement, justement en raison de son engagement auprès des organismes communautaires.
C'est ça.
Des gens à plus faible revenu, des gens dans le besoin. Il était porte-parole de l'opposition au Parti québécois en ces matières-là, de lutte contre la pauvreté, solidarité sociale, ces choses-là.
Puis au parti, il avait toujours beaucoup de responsabilités. Là. Il était, avant de quitter, avant d'être expulsé, il était quoi? Président et whip?
Oui,
président du caucus et whip.
Oui, exactement. Et je te dirais que dans l'organisation, c'était quelqu'un aussi qui jouait un rôle assez important en raison de son expérience et de ses contacts, puis tout ça. Alors évidemment, c'est une fin de carrière politique aussi, dans son cas, bien triste.
Bien, ben merci beaucoup, Rémi. Puis on se reparle demain, lendemain de Banquet de la Tribune.
Oui.
dont on ne parlera pas.
Dont on ne pourra pas parler.
Chers auditeurs, vous n'en entendrez pas parler à cette antenne. C'est à huis clos. Désolé.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Il y a un fossé entre Montréal et le reste du Québec et les élections du 3 octobre nous ont donné l'impression qu'il s'approfondissait. On en parle avec David Carpentier. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille. Merci de nous recevoir.
Ça fait plaisir. Vous êtes candidat au doctorat à l'Université d'Ottawa et aussi, surtout, auteur de « La métropole contre la nation » aux presses de l'Université du Québec. Et ma première question, ce serait, avec votre livre, est-ce que vous nous expliquez, au fond, pourquoi et comment ce fossé entre Montréal et le reste du Québec s'approfondit? Et là, je reprendrai une de vos questions qui traverse le livre, c'est « Assistons-nous à une mise en cause par la Ville de Montréal de l'appartenance à la nation? »
En effet, plusieurs observateurs observent le creusement d'un fossé. Il y a quelques années, Guy Rocher affirmait qu'un écart dramatique s'était creusé entre Montréal et le reste du Québec.
Oui.
On l'a vu au lendemain des élections générales. La carte électorale nous montrait un portrait quand même assez contrasté entre le reste du Québec et l'île. Alors, dans le livre, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de montrer à partir de l'analyse d'un domaine de politique publique spécifique, soit celui de l'intégration des personnes immigrantes, s'il existe des différences entre Montréal et le reste du Québec, entre l'administration municipale de la Ville de Montréal et qu'est-ce qui se fait au niveau du gouvernement du Québec en matière d'intégration. Et la réponse à cette question, c'est qu'il n'en existe un. Il y a deux manières de réfléchir à l'intégration dans ces contextes spécifiques-là.
Donc, juste pour revenir sur les élections, puis après ça, on reviendra aux deux manières. La carte électorale, est-ce qu'elle ne nous trompe pas dans le sens, est-ce que c'est pas exagéré? Parce qu'on constate aussi que la coalition Avenir Québec est arrivée deuxième dans plusieurs comtés sur l'île de Montréal.
Tout à fait, c'est une bonne image que vous soulevez. La carte électorale, avec notre mode de scrutin actuel, nous envoie quand même à des portraits d'ensemble. Donc, une île de Montréal qui est rouge, orange et quelques teintes de bleu ici et là, avec le reste du Québec qui est quand même bleu poudre. Ce sont des généralisations dans une certaine mesure. Puis comme vous l'expliquez, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour différentes formations politiques, à la fois sur l'île de Montréal et sur le reste du Québec. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se fait au niveau des autorités publiques. Quelles sont les mesures qui sont mises en place? Quels sont les discours qui produisent?
Oui, c'est ça. Donc, la carte tend peut-être à dramatiser le fossé. Mais est-ce que c'est pas une constante contemporaine dans le monde, les métropoles cosmopolites comme l'est pas mal Montréal, sont globalisées, donc on est plus dans la ville et dans le monde que dans la nation. Est-ce que c'est pas comme ça à Paris, à Barcelone, à New York, et donc où l'appartenance à la nation est pas très significative?
En effet, on pourrait penser que ces grandes métropoles partagent plusieurs traits. Elles sont traversées par la diversité culturelle, ce sont des centres économiques, etc. Mais qu'est-ce qui distingue peut-être Montréal des autres métropoles que vous venez de mentionner? C'est le contexte multinational dans lequel elles s'insèrent. Donc Montréal oui. est à la jonction entre une société d'accueil québécoise et une société d'accueil canadienne, ce qui fait en sorte que lorsqu'elle met en place des mesures qui peuvent, par exemple, être associées au cosmopolitisme ou à cette idée de ville-monde, eh bien ça peut être perçu par les autorités québécoises comme étant associé à une manière d'intégrer à la société d'accueil canadienne. Évidemment, il y a d'autres villes dans le monde qui se retrouvent dans des situations similaires. On peut penser à Barcelone, qui se trouve dans un contexte espagnol et catalan, aussi à Bruxelles, dans un contexte flamand et belge francophone. Oui.
Donc, il y a une couche de complexité supplémentaire dans ces dernières villes-là, là, contrairement à des villes comme de grandes nations comme Paris ou New York.
Tout à fait.
Et chez nous, donc, vous nous faites comprendre qu'il y a une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme qui se joue à Montréal.
Oui, exactement. Puis, ce n'est pas forcément une bataille entre l'interculturalisme et le multiculturalisme. C'est davantage une bataille entre deux projets de construction nationale,
c'est ça.
Entre deux sociétés ou deux nations qui souhaitent se constituer comme des sociétés d'accueil. Et puis, souvent, on exagère les différences entre les deux modèles d'intégration, entre interculturalisme et multiculturalisme, mais les deux se retrouvent dans ce qu'on peut appeler un paradigme du pluralisme, c'est-à-dire qu'ils conçoivent l'immigration comme une source d'enrichissement collectif. Mais néanmoins, ces deux approches, ces deux modèles ne conçoivent pas la diversité ethno-culturelle de la même manière. Entre autres, dans le cas du Québec, le Québec se conçoit comme une nation minoritaire, donc il a ce besoin d'affirmer qu'il se constitue comme une nation, ce qui n'est pas nécessairement le cas au niveau du Canada, où est-ce que la société est davantage présentée comme une communauté de communautés.
Ah oui, c'est pour ça qu'on peut se dire post-national, tout en construisant une nation dans les faits au Canada.
En effet, et puis il y a aussi la force linguistique et socio-économique de la majorité anglophone dans un contexte international où est-ce que il y a une certaine prédominance de la culture anglo-saxonne. Ça aussi, c'est très considérable.
Et comment faire pour imposer ce modèle de l'interculturalisme à Montréal? Est-ce que vous dites, entre autres, que c'est parce qu'on ne l'a pas assez défini, au fond, ici à Québec, qu'il y a du mal à s'imposer?
Et voilà. Donc ça rentre dans le... Vous avez raison, ça rentre dans le registre de l'hypothèse. Dans le livre, je montre essentiellement que les acteurs au niveau de la ville de Montréal estiment que la concurrence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme est pertinente pour réfléchir aux enjeux qui sont associés à l'intégration. Les acteurs-là affirment également que la ville semble souscrire à un modèle qui s'apparente au multiculturalisme. Mais concrètement, relativement à ce qui explique cette trajectoire singulière-là de la ville,
oui.
Comme vous le dites, il y a plusieurs personnes observateurs qui estiment que cela est dû à l'absence de formalisation de l'interculturalisme. Donc,
formalisation au sens où il faudrait qu'il soit défini. Il n'a jamais vraiment été défini.
Il faudrait qu'il soit défini. Donc, à l'issue de la commission Bouchard-Taylor, l'une des recommandations, c'était de produire un livre blanc qui définissait l'interculturalisme.
Ben oui.
Par la suite, de l'enchasser ou plutôt de le formaliser dans le cadre d'une loi qui viendrait contraindre, entre autres choses, les organismes de l'État québécois à mettre en œuvre l'interculturalisme. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Le gouvernement du Québec, et ça, tous les partis confondus, ont préféré mettre la charrue avant les bœufs et adopter une série de lois sur la langue, sur la laïcité, etc., alors qu'il manque ce cadre global-là. Comme un peu qu'est-ce que le Canada s'est donné à la fin, au début des années 70, il a commencé par élaborer, structurer sa politique du multiculturalisme, puis par la suite, il a défini davantage son identité. Nous, on a procédé par l'inverse.
Ah oui. Donc, il serait important pour le Québec de définir clairement ses fondements, puis peut-être ses fondements constitutionnels dont fait partie l'interculturalisme, pour vraiment clarifier les choses.
À tout le moins, c'est l'une des idées qui est effectivement défendue dans le livre, que la formalisation d'un modèle d'interculturalisme par l'Assemblée nationale viendrait donner des balises à la ville de Montréal, mais aussi aux autres municipalités pour favoriser l'intégration en français des nouveaux arrivants. Donc, affirmer le caractère national et distinct du Québec, d'une part, et d'autre part, et ça c'est très important, affirmer l'attachement du Québec, un attachement ferme envers le pluralisme, envers une vision positive de l'immigration. Si le Québec avait adopté l'interculturalisme à l'issue de la commission Bouchard-Taylor, peut-être qu'on n'aurait pas connu, dans le cadre des dernières élections, des dérives ou des coups d'éclat associés à des propos négatifs sur l'immigration.
Oui. Et vous nous faites comprendre aussi qu'il y a un autre acteur qui n'était pas là quand on se bornait à débattre Québec, Canada, interculturalisme, multiculturalisme, c'est le décolonialisme. Et le décolonialiste, lui, il refuse toute nation. C'est présent à la ville de Montréal actuellement.
Oui, donc certains collègues dans l'université parlent d'un effet de mode, mais en effet, vous avez raison. Il y a une certaine posture décoloniale qui adopte un esprit critique vis-à-vis de l'idée de nation. Donc, il définit essentiellement la nation comme étant un système d'oppression des minorités ethnoculturelles, des minorités racisées, etc. Et puis, il y a des acteurs à la ville de Montréal qui semblent porter ce discours-là. Donc, ça pose un défi additionnel et une réflexion intéressante à savoir comment concilier nationalisme et décolonialisme, et ça d'autant plus dans la mesure où est-ce que le décolonialisme, tout comme le nationalisme, peut aussi soulever des réflexions qui sont intéressantes, entre autres sur la question des discriminations et du racisme.
Oui. Et la convergence culturelle là-dedans, il y a Guillaume Rousseau, par exemple, qui fait la promotion de ce concept-là. Où ça se situe? Est-ce que c'est une forme d'interculturalisme?
Oui, alors...
Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, je précise.
Oui, tout à fait. Le directeur de l'Institut de recherche sur le Québec qui avait produit récemment une étude où est-ce que l'Institut fait la promotion de la convergence culturelle. Mais la convergence culturelle ressemble à une idée qui avait été proposée au début des années 80 par le Parti québécois et qui avait par la suite été abandonnée en raison de son caractère assimilationniste. Donc, pour vous situer, si on peut dire que l'assimilationnisme est un bout du spectre et que le multiculturalisme est un autre. L'interculturalisme serait au milieu et la convergence culturelle de M. Rousseau et ses collègues serait à mi-chemin entre l'assimilationnisme et l'interculturalisme. Dans la mesure où l'effort d'intégration viendrait d'abord et avant tout des nouveaux arrivants et qu'il y aurait le devoir de s'adapter sur le plan culturel à la société d'accueil. Ce n'est pas forcément le cas dans l'interculturalisme où il y a cette idée d'hybridation qui est très importante et de valorisation de la différence puis du pluralisme ethnoculturel.
C'est un peu comme les courants dont vous parlez en Europe qui reviennent à l'idée d'assimilation contre le multiculturalisme.
Tout à fait, vous avez raison. En Europe, on a assisté à un ressac. Littéralement de la part des majorités nationales, plusieurs États, dont le Pays-Bas, le Royaume-Uni, avaient adopté des politiques de multiculturalisme dans les années 90. Et puis, dans les dernières années, entre autres dans la période post-11 septembre, on est revenu à des politiques dites néo-assimilationnistes. Donc, elles n'empruntent pas le vocabulaire de l'assimilation, mais c'est tout comme l'accent est mis sur l'adaptation culturelle, l'apprentissage de la langue nationale, etc.
Dernière question sur la loi 96, cette nouvelle charte de la langue française. Et avec ces nouvelles exigences en matière d'exemplarité de l'État, là, les municipalités sont assujetties, avec aussi son chapitre sur la langue commune, est-ce qu'elle remplit pas un peu le vide politique que vous constatez dans vos travaux?
D'une certaine manière, on pourrait penser que oui, mais il y a un problème fondamental avec, on va dire, il y a deux problèmes fondamentaux avec la loi 96 qui a été adoptée relativement à la situation montréalaise. Le premier problème, c'est que la loi a été élaborée dans une perspective davantage descendante, donc pour le dire en anglais, top-down, dans la mesure où ça a été fait à Québec, puis par la suite, ça va être mis en œuvre à Montréal. Et là-dessus, les recherches sont très claires. Si on souhaite que les pratiques locales se transforment, il faut impliquer les acteurs municipaux, les acteurs locaux dans ces chantiers-là. Donc, ça aurait été intéressant. Par ailleurs, dans le livre, je propose au gouvernement du Québec d'élaborer une loi sur l'interculturalisme et de collaborer avec les municipalités dans cette élaboration-là. Donc,
ouais.
Une dimension collaborative qu'on ne retrouve pas, Donc, le premier problème. Et le deuxième problème renvoie à ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire que la loi, c'est un, la langue plutôt, c'est un élément parmi tant d'autres qui se retrouverait dans le cadre d'une loi sur l'interculturalisme. Donc, on a, oui, une mesure sur le plan linguistique, mais il nous manque encore le cadre global à l'intérieur duquel de réfléchir. Donc, le problème se retrouve aussi avec la loi 21. Donc, on a une pièce législative qui porte sur la laïcité, une pièce législative qui porte sur la langue. Les personnes, les Montréalais seraient en droit de se demander où est-ce qu'elle est la pièce législative qui fait la promotion d'une société québécoise pluraliste, qui vient valoriser la différence ethnoculturelle. Eh bien, ça, on l'attend toujours, et c'est grâce à...
Est-ce que c'est pas la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?
Dans une certaine mesure, oui, mais ça fait déjà longtemps qu'elle a été adoptée. C'est sûr que la Charte s'inscrit dans l'ensemble de lois qui vient finalement fédérer l'interculturalisme, mais il manque encore le modèle en lui-même, le cadre.
Ben, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, David Carpentier. On se reprendra. Merci.
Un grand merci, M. Robitaille.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Métropole contre la Nation aux presses de l'Université du Québec. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.